Chapitre 3. Cependant, les pharisiens n'étaient en rien convaincus, et ils ouvrent à nouveau tout le débat un peu plus tard, quand, un autre jour de sabbat, Jésus entre en contact avec un besoin de l'homme dans une de leurs synagogues. Le conflit se déchaîne autour de cet homme qui avait la main desséchée. Ils regardent Jésus, escomptant que leur sera fournie une occasion de l'attaquer. Ils relèvent le défi qui, quoique inexprimé, se trouve dans leur cœur, en disant à l'homme « Lève-toi, là, devant tous !» le mettant ainsi bien en vue pour que tous les assistants soient témoins de ce défi. Une autre question concernant le sabbat est maintenant soulevée. Par la loi, Dieu a-t-il voulu interdire de faire du bien, comme de faire du mal? Le sabbat fait-il d'un acte de miséricorde une transgression? On peut rapprocher cette question « Est-il permis de faire du bien ?» ou de faire du mal, de Jacques 4, verset 17. Si nous savons faire le bien, et si nous ne le faisons pas, c'est péché. Fallait-il que le parfait serviteur de Dieu, qui connaissait le bien, et qui de plus avait toute la puissance pour le faire, retienne sa main d'agir parce qu'il se trouvait que c'était jour de sabbat? Impossible. C'est de cette manière frappante que le saint serviteur de Dieu justifiait son ministère de grâce en la présence de ceux qui lui auraient lié les mains par des interprétations rigides de la loi de Dieu. Il est important que nous apprenions la leçon que nous enseigne tout cela, au cas où nous tomberions dans une erreur semblable. La loi du Christ est très différente dans son caractère et son esprit de la loi de Moïse. Cependant, de la même façon, on peut en faire un mauvais usage. Si le joug de Christ, qui est léger et aisé, est tordu pour devenir un fardeau pesant et aussi un véritable obstacle à l'effusion de la grâce et de la bénédiction, cela devient une perversion plus grave que tout ce que nous voyons dans ces versets. Le cœur des pharisiens était dur. Il était bien sensible à tous les aspects techniques de la loi, mais dur s'il s'agissait d'avoir de la sollicitude pour les besoins de l'homme ou d'avoir quelques sentiments de leur propre péché. Jésus voyait dans quel état affreux il se trouvait, et il en était affligé. Mais il ne retient pas la bénédiction. Il guérit cet homme et les laisse à leur péché. Ils étaient indignés parce qu'il avait enfreint la loi sur un des points auxquels ils tenaient tant. Eux-mêmes sortent pour enfreindre une des plus importantes prescriptions de la loi en tenant conseil pour le faire mourir. Voilà le pharisaïsme. Devant cette haine meurtrière, le Seigneur se retire avec ses disciples. Nous le voyons, à la fin du chapitre 1, se retirer de tout l'éclat que donne la popularité. Il ne cherche pas à se faire bien voir, il ne désire pas non plus attiser la contestation. Ici, nous trouvons le parfait serviteur agissant exactement comme est exhorté à le faire l'esclave du Seigneur en 2 Timothée 2, verset 24. Il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support. Mais sa personne a un tel pouvoir d'attraction que les hommes affluent vers lui, même quand il se retire. Une grande multitude se presse autour de lui. Sa puissance et sa grâce se manifestent de bien des façons, et des esprits impurs reconnaissent en lui le maître auquel il faut qu'ils obéissent, bien qu'ils n'acceptent pas leur témoignage. Il apporte la bénédiction aux hommes et les délivre. Cependant, il n'attend rien d'eux. D'abord, il a à sa disposition sur le lac une petite barque dans laquelle il peut se retirer loin de la foule qui le presse. Et puis, il monte sur une montagne où il appelle à lui seulement ceux qu'il veut, et d'entre eux, il en choisit 12, destinés à être apôtres. Ainsi, non seulement il répond à la haine des chefs religieux en se retirant d'eux, mais aussi en appelant les 12 qui, le moment voulu, iront poursuivre son service incomparable. Ainsi prépare-t-il l'élargissement du service et du témoignage. Les 12 qui ont été choisis doivent être avec lui, et puis, quand leur temps d'instruction et de préparation sera terminé, il les enverra. Cette période d'instruction dure jusqu'au verset 6 du chapitre 6. Au verset 7 de ce même chapitre, nous avons le récit du vrai début de leur mission. Le fait d'être avec lui est d'une immense importance pour celui qui est appelé à servir. Cela est tout aussi nécessaire pour nous que cela l'était pour eux. Ils avaient sa présence et sa compagnie sur la terre. Nous ne l'avons pas, mais nous avons son esprit qui nous est donné et sa parole écrite. Ainsi nous est-il permis, dans un esprit de prière, de garder le contact avec lui et de recevoir cette éducation spirituelle qui seule nous forme pour le servir avec intelligence. Les 12 furent d'abord choisis, puis formés, puis envoyés avec la puissance qui leur était accordée. Tel est l'ordre divin, et nous voyons ces choses présentées dans les versets 14 et 15. Ayant appelé et choisi les 12 sur la montagne, il revient aux endroits fréquentés par les hommes et se trouve dans une maison. Immédiatement, les foules s'assemblent. L'attirance qu'il exerce est irrésistible, et l'on exige tant de lui qu'il n'y a pas de temps pour prendre les repas. Aussi, la première chose dont sont témoins les 12, quand ils sont avec lui, est cette forte vague d'intérêt et l'apparente popularité de leur maître. Cependant, ils voient vite un autre aspect des choses, et en premier lieu, que Jésus n'est absolument pas compris de ceux qui sont les plus proches de lui selon la chair. Sans doute sont-ils remplis de bienveillante sollicitude pour lui. Ils ne peuvent comprendre un tel labeur incessant, et ils ont le sentiment qu'il convient de le saisir pour l'arrêter, comme s'il n'avait plus son bon sens. Jean 7, verset 5, car ses frères ne croyaient pas en lui non plus, éclaire cette attitude extraordinaire de leur part. Quand le Seigneur est parvenu à ce point de son service, ses frères ne croient pas en lui, et apparemment sa mère n'a encore qu'une obscure idée de ce qu'il est vraiment en train de faire. Mais en deuxième lieu, il y a des ennemis qui deviennent encore plus durs et qui ont encore moins de scrupules. Au verset 6 de notre chapitre, nous avons vu les pharisiens s'allier à leurs adversaires, les Hérodiens, pour tenir conseil contre lui afin de le faire mourir. Maintenant, nous trouvons les scribes qui descendent de Jérusalem pour s'opposer à lui et l'accuser. C'est ce qu'ils font de la manière la plus irréfléchie, attribuant ses œuvres de grâce à la puissance du diable. Il ne s'agissait pas simplement d'outrages grossiers, mais de quelque chose de délibéré, inspiré par la ruse. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils faisaient, mais ils essayaient de noircir sa réputation. Ils admettaient l'évidente réalité des miracles et puis, volontairement et officiellement, déclaraient que c'était des œuvres du diable. Tel était le caractère de leur blasphème, et il convient d'être clair à ce sujet pour examiner les paroles du Seigneur au verset 29. Mais pour commencer, il les fait venir à lui et répond par un appel au bon sens. Leur opposition blasphématoire comportait une absurdité. Il suggérait, en effet, que Satan s'était mis à chasser Satan, que son royaume et sa maison étaient divisés contre eux-mêmes. Et si c'était vrai, cela impliquerait la fin de tout ce qui est activité satanique. Satan est bien trop avisé pour agir de la sorte. Il nous faut admettre, hélas, que nous autres chrétiens n'avons pas été trop avisés pour agir de la sorte. La chrétienté est pleine de divisions qui sont proprement suicidaires, et c'est Satan lui-même qui, sans aucun doute, est à l'origine de cela. Sans la puissance du Seigneur Jésus dans le ciel, qui est restée toujours la même, et sans la présence de l'Esprit-Saint qui habite dans la vraie Église de Dieu, le témoignage public de la chrétienté serait mort depuis longtemps. Que la foi n'ait pas péri pour disparaître de la terre est à la louange, non de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Après avoir démontré la folle absurdité de leurs paroles, le Seigneur se met à donner la vraie explication de ce qui s'est passé. Il est celui qui est plus fort que l'homme fort, et maintenant il est en train de piller ses biens, en libérant beaucoup de ceux qui ont été emmenés captifs par Satan. Celui-ci est lié lorsque le Seigneur est là présent. Troisièmement, il avertit clairement ces malheureux scribes et pharisiens de l'énormité du péché qu'ils ont commis. Le parfait serviteur a délivré des hommes de l'emprise de Satan dans la puissance de l'Esprit-Saint. Pour éviter de l'admettre, il taxe l'œuvre du Saint-Esprit d'œuvre de Satan. C'est pur blasphème, le blasphème aveugle d'hommes qui ferment les yeux à la vérité. Il se place au-delà du pardon, avec comme seule perspective la condamnation éternelle. Ils ont atteint cet affreux état d'endurcissement dans la haine et l'aveuglement qui avaient caractérisé autrefois le pharaon en Égypte et qui, plus tard, avaient marqué le royaume du nord d'Israël quand la parole du Seigneur avait été « Éphraïm s'est attaché aux idoles. Laisse-le faire. » Osée 4, verset 17. La volonté de Dieu est de laisser faire ses scribes de Jérusalem et cela signifie pas de pardon, mais condamnation. Voilà ce qu'était le péché qui ne pouvait être pardonné. Comprenant ce qu'il est réellement, nous pouvons facilement voir que les personnes qui ont une conscience délicate et qui aujourd'hui sont troublées parce qu'elles craignent de l'avoir commis, sont les dernières qui ont vraiment pu le commettre. Le chapitre se termine avec l'arrivée des proches dont le verset 21 nous a parlé. Les paroles du Seigneur concernant sa mère et ses frères ont paru à certains inutilement dures. Il y avait certainement en elles une note de sévérité qui était la conséquence de leur attitude. Le Seigneur saisissait l'occasion de donner à ses disciples l'instruction dont ils avaient besoin. Ils l'avaient vu au milieu de beaucoup de labeurs et apparemment populaires, et aussi au centre d'une opposition blasphématoire. Maintenant, il faut que les disciples aient une démonstration frappante du fait que les relations que Dieu reconnaît et honore sont celles qui ont une base spirituelle. Autrefois en Israël, les liens de parenté dans la chair comptaient beaucoup. Maintenant, ils doivent être mis de côté pour faire place aux liens spirituels. Et la base de ce qui est spirituel se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, la volonté de Dieu se trouve enchâssée dans les Saintes Écritures. L'obéissance est la chose fondamentale. Elle est à la base de tout vrai service, et il faut qu'elle nous caractérise si nous voulons être liés au seul vrai et parfait serviteur. Ne l'oublions jamais.